Chapitre 3e, année universitaire. Mon agréable année en Allemagne ne m'avait beaucoup enrichi ni d'intelligence ni d'âme. À Édimbourg, je trouvais les affaires de la famille aussi embarrassées que jamais. La situation de mon père ne s'améliorait pas. Deux enfants plus jeunes, Inès, mon unique frère, et Ida, étaient venus ajouter au tracas de ma mère. Une autre sœur, Julia, n'allait pas tarder de les suivre. J'ai dit qu'Annette, notre aînée, gagnait déjà sa vie au Portugal, d'où elle nous envoyait une bonne part de son salaire. Lottie et Connie allaient en faire autant. Ma mère avait cru devoir prendre en partie la charge d'une grande maison, ce qui pouvait avoir ses avantages, mais n'était pas moins désastreux sous certains rapports. Peut-être la dureté des temps ne fut-elle pas pour moi une mauvaise chose. J'étais dissipé, j'avais le sang chaud, un caractère tant soit peu insoucieux, mais les circonstances réclamaient de l'application et de l'énergie. Comment faire faubon à une si admirable mère? Il avait été décidé que je serais médecin, surtout, je crois, parce qu'Édimbourg était un centre fameux d'études médicales. Cela impliquait pour ma mère un long surcroît d'efforts, mais en ce qui concernait ses enfants, son ambition n'avait d'égal que sa vaillance. Je n'aurais pas seulement à préparer la médecine, je devrais poursuivre le diplôme d'université, ce qui est tout autre chose qu'une simple licence de praticien. Au moment où je rentrais d'Allemagne, quantité de concours étaient ouverts pour l'obtention des bourses. Je repassais en un mois mes classiques et me présentais aux épreuves. Une semaine plus tard, j'étais avisé que je gagnais la bourse Grierson de 40 livres. Chez nous, la joie fut grande, tout semblait s'éclairer. Hélas, quand j'allais chercher l'argent, on me dit que j'étais victime de l'erreur d'un secrétaire et que la bourse Grierson ne s'attribuait qu'aux étudiants de lettres. Comme la liste des prix était longue, je supposais qu'au moins j'aurais le suivant, qui était valable pour la médecine. Je vis s'allonger la mine du fonctionnaire à qui j'avais affaire. « Malheureusement, me dit-il, le bénéficiaire en a déjà touché le montant. » C'était un vol manifeste. Ce prix que j'avais gagné, qui m'était nécessaire, je ne le reçus jamais. On me remit tout juste, en guise de consolation, 7 livres provenant de je ne sais quel fonds. Ce fut pour moi une déception cruelle. Bien entendu, il y avait là matière à procès. Mais que peut un étudiant sans ressources, et quelle eût été ma carrière à l'école si j'avais commencé par appeler l'université en justice pour une question d'argent? Je n'avais qu'à me résigner. Sans doute était-ce le seul parti raisonnable. Bien que de haute taille et de charpente solide, je n'étais encore qu'un jeune homme à demi formé. Me voilà donc embarqué pour mes 5 ans d'études médicales. Évidemment, si je faisais diligence, elle pouvait se réduire à 4. Mais comme on le verra, une interruption magnifique devait me mettre en retard d'un an. Admis comme étudiant en octobre 1876, je quittais l'université en 1881 comme bachelier en médecine. Entre ces deux dates, s'étend une fastidieuse période durant laquelle je moue de la botanique, de la chimie, de l'anatomie, de la physiologie, sans compter une foule de matières obligatoires dont beaucoup n'ont aucune relation indirecte avec l'art de guérir. Tout ce système d'enseignement, quand je le considère à distance, m'apparaît comme trop oblique, trop peu pratique pour le dessein auquel il répond. Et cependant, j'ai lieu de croire à la supériorité d'Édimbourg sur la plupart des autres écoles, d'autant qu'Édimbourg est pratique dans sa préparation à la vie. Il diffère des universités anglaises en ce qu'on n'y respire point une atmosphère d'école. L'étudiant y mène une vie d'homme libre, à son domicile personnel, sans restriction d'aucune sorte. Naturellement, ma famille habitant la ville, je travaillais chez moi. De professeur à élève, on ne cherchait pas à faire amitié ni même connaissance. Tout s'arrangeait strictement sur un pied d'affaire. Par exemple, nous versions 4 guinées pour le cours d'anatomie, en retour de quoi nous recevions le texte des cours d'hiver. Nous n'apercevions jamais le professeur qu'à demi caché dans sa chaire, et en aucune circonstance, nous n'échangeions un mot avec lui. C'étaient pourtant des hommes remarquables que certains de nos maîtres, et sans nouer avec eux la moindre relation personnelle, nous arrivions fort bien à les connaître. Il y avait l'excellent Crum Brown, le chimiste, qui, devant un mélange explosif, avait toujours grand soin de se mettre à l'abri, et d'ailleurs obtenait rarement la déflagration, en sorte que le boum de la classe était le seul bruit qui se fit entendre. Brown quittait alors sa retraite. « Vraiment, messieurs !» nous disait-il sur un ton de remontrance. Et là-dessus, il reprenait son cours, sans plus s'occuper de son expérience avortée. Il y avait Wyville Thompson, le zoologiste, à peine revenu de son expédition sur le Challenger, et Balfour, un vieillard quinteux, épineux, dont la figure et les manières rappelaient celles du réformateur John Knox, et qui houspillait les étudiants aux examens, ce qui lui valait d'en être lui-même houspillé tout le reste de l'année. Il y avait Turner, un bel anatomiste, mais un autodidacte, comme on s'en avisait quand il parlait de prendre et mettre cette structure sous le manche de ce scalpel. Le trait le plus humain que j'ai retenu de Turner est celui-ci. Des galopins avaient un jour, en se jetant des boules de neige, envahi le quadrangle sacro-saint de l'école. Au bruit de la lutte, toute la classe dont j'étais s'agitait sur ses bancs. « Messieurs, nous dit Turner, je crois que votre présence serait plus utile hors de cette salle. » Il n'eut pas à nous le redire, nous nous élançâmes à grands cris, et la cour fut vite dégagée. Mais de tous nos professeurs, celui que recompose le plus vivement ma mémoire, c'est Rutherford, avec sa silhouette trapue, sa barbe assyrienne, sa voix prodigieuse, son torse énorme et ses façons singulières. Il exerçait sur nous une fascination mêlée de respect et d'effroi. J'essayai de rendre un peu sa physionomie et son caractère dans l'imaginaire professeur Challenger. Il lui arrivait de commencer son cours dès avant son entrée dans la salle et nous l'entendions mugir. « Il y a des valvules dans les veines !» ou telle vérité de ce genre, alors que la chair était encore vide. C'était, hélas, un vivisecteur impitoyable, et bien que je reconnaisse comme nécessaire un minimum de vivisection sans souffrance, d'ailleurs beaucoup plus justifiable que le fait de manger de la viande, je me réjouis que la loi se soit faite plus rigoureuse contre les excès de ses pareils. « Ah, ces grenouilles germaniques » s'écria-t-il avec un accent bizarre, en dépeçant quelques malheureux amphibies. Un curieux fragment anatomique ayant été recueilli sur la plage voisine de Portobello, j'écrivis à ce propos une chanson d'étudiant dans laquelle chaque professeur tour à tour le revendiquait pour son compte. Le couplet sur Rutherford était le suivant. Rutherford, l'air impertinent, dit « C'est un calcul biliaire. Je le réclame incontinent pour l'avoir en me promenant sur la plage vers le Ponant, les séchoirs par mégarde à terre. Je l'ai sur le champ reconnu, l'ayant de mes mains obtenu à l'aide d'un fort cholagogue, un jour que j'avais mis à nu les viscères d'un bulldog. » Si, comme je le crois, la chanson se chante toujours, il peut être intéressant pour la génération actuelle d'en savoir l'auteur. Mais de tous les personnages que j'ai eu l'occasion de connaître à Édimbourg, il n'en est pas de plus curieux que le chirurgien de l'hôpital, Joseph Bell. Mince, sec et nerveux, le nez puissant, le visage aigu, les yeux pénétrants et gris, les épaules anguleuses, la démarche saccadée, il parlait d'une voix forte et discordante. Bien que très habile opérateur, il excellait surtout dans le diagnostic, non seulement de la maladie, mais de la profession et du caractère. Il me distingua, sans que jamais j'aie compris pourquoi, dans la foule des étudiants qui fréquentaient ces salles, et il m'employait pour ces malades de passage, ce qui veut dire que j'avais à leur faire prendre la file, à noter sommairement leur cas, puis à les introduire un par un dans la salle où se tenait le professeur, entouré de ses internes et de ses élèves. Ainsi je pus à loisir étudier ses méthodes et constater qu'un rapide coup d'œil lui en disait souvent plus sur le malade que ne m'en avait appris mon questionnaire. S'il commettait quelques erreurs, il obtenait parfois des résultats saisissants. J'en citerai cet exemple, des plus caractéristiques. « Ancien soldat, n'est-ce pas mon ami ?» dit-il un jour à l'un de ses consultants. « Oui, monsieur. Libéré depuis peu ?» « Oui, monsieur. Sous-officier ?» « Oui, monsieur. En garnison aux Barbades ?» « Oui, monsieur. » « Cet homme, messieurs, nous expliqua-t-il ensuite, n'entendait pas nous manquer de respect. Cependant, il avait gardé son chapeau sur la tête. Dans l'armée, on ne se découvre pas. C'est un usage civil auquel il se conformerait s'il avait quitté depuis longtemps le service. Ce qui m'a fait penser aux Barbades, c'est son éléphantiasis, qui est une maladie des Indes occidentales et non pas d'Angleterre. » À tous les Watson qui formaient son auditoire, ce qui avait semblé miraculeux avant que Bell ne s'expliquât devenait tout de suite assez simple. Il n'est pas étonnant que, pour avoir vu de près un pareil homme, j'ai utilisé son système en l'amplifiant quand j'ai essayé de créer un détective scientifique qui résout les questions par ses propres moyens et non point grâce aux folies du criminel. Bell, d'ailleurs, prit un vif intérêt à mes histoires policières et il me fit même des suggestions qui, je dois l'avouer, n'étaient pas très pratiques. Quand je vins le supplier en dehors auprès de ses malades, Il m'avertit qu'une certaine connaissance des idiotismes écossais m'était indispensable. Avec le bel aplomb de mon âge, je me flattais de les posséder. Il ne m'advint pas moins ceci d'amusant que, tout à mon début, un vieillard que j'interrogeais sur le mal dont il souffrait me répondit en termes intelligibles. Bell se divertit fort de l'incident. Le mal en question était, paraît-il, un abcès à l'aisselle. Si, dans ma carrière universitaire, je franchis sans broncher tous les obstacles, je n'emportais cependant aucun prix. Je restais dans le peloton, sans traîner, sans prendre d'avance. Aux examens, j'étais, si je puis dire, candidat à 60%. Il y avait à cela quelques raisons que je vais dire. Je me sentais tenu d'obligation à venir en aide à ma famille, dû cette aide se borner humblement à me suffire. Ainsi, presque d'emblée, je m'efforçais de faire en 6 mois mon année de classe, ce qui me donnait le loisir de gagner quelque argent comme assistant médecin, plutôt que de faire pour un docteur des besognes vagues et diverses. Mais quand, pour la première fois, j'offris mes services, je dus reconnaître qu'ils valaient positivement 0. Encore, à ce prix, le marché ne pouvait-il qu'être onéreux pour mon employeur, car j'égalais en ignorance ce jeune homme de Pickwick, fermement convaincu que l'acide oxalique n'est autre que le sel d'Epsom. Je tentai ma première aventure au commencement de l'été de 1878 avec un docteur Richardson qui courait modestement la clientèle dans les quartiers pauvres de Sheffield. Je le secondais de mon mieux et il me montrait, j'ose le dire, beaucoup de patience, mais nous nous séparâmes au bout de 3 semaines par consentement mutuel. Je partis pour Londres où je publiai des annonces médicales et trouvai un asile provisoire chez mes parents Doyle qui habitaient alors Clifton Gardens dans Maida Vale. Sans doute étais-je pour eux trop bohème, comme ils étaient trop conventionnels pour moi. Ils me témoignèrent néanmoins beaucoup de bonté. Pendant quelque temps, j'errais dans Londres, si démuni de toute ressource que l'oisiveté ne pouvait guère avoir pour moi ses dangers habituels. Des événements fâcheux se laissaient pressentir en Orient. Les sergents recruteurs, qui se démenaient fort dans Trafalgar Street, prirent une forme à mesure et s'évertuèrent à me faire accepter le shilling du roi. Il y eut un moment où je faillis leur céder. J'en fus empêché par ma mère. Vers la fin de cette même année, je m'engageai comme infirmier dans les ambulances anglaises envoyées en Turquie à l'occasion de la guerre turco-russe. La Croix-Rouge m'inscrivit sur ces listes, mais la défaite des Turcs prévint mon départ. D'ailleurs, l'une de mes annonces, étudiant de 3e année, plus désireux d'expérience que de rémunération, offre ses services, etc., ne tarda pas à provoquer une réponse. Elle venait du docteur Elliot, qui habitait dans le Shropshire, une localité pompeusement dénommée Royton des 11 villes. Trop petite pour une ville, à plus forte raison l'était-elle pour 11. J'exerçais durant 4 mois mes talents d'auxiliaire sur une clientèle campagnarde. Je menais une existence paisible, qui me laissait de très agréables loisirs. Aussi puis-je dater de cette époque un certain progrès de mon esprit, car je ne cessais de lire et de penser. Mes fonctions médicales n'étaient qu'une simple routine, sauf en de rares exceptions, dont je n'ai jamais oublié l'une, car elle me fut la première occasion d'éprouver mes nerfs dans un cas subi et grave. Le docteur était sorti quand un messager vint, tout hors de lui, m'annoncer que dans une maison voisine où avait lieu je ne sais quelle fête, l'explosion d'un vieux canon avait grièvement blessé et brûlé l'un des assistants. Faute d'un médecin disponible, je restais l'unique ressource. À mon arrivée, je trouvais, couché dans un lit, un homme qui portait un gros éclat de fer planté sur le côté de la tête. Je tâchai de ne pas laisser paraître mon inquiétude et fis ce qui s'imposait tout d'abord, j'enlevai l'éclat. L'os ainsi découvert, je m'assurai que le cerveau n'était pas touché. Puis je refermai la blessure, j'en étanchai le sang et je la bandai. Quand le docteur arriva, il n'eut plus qu'à s'occuper de menus détails. Cet incident me donna confiance en moi-même et, chose plus importante, en donna aux autres. Au total, je passais des jours heureux à Royton et je garde du docteur Elliot et de sa femme un très bon souvenir. Après mes travaux d'hiver à l'université, je fis une affaire vraiment fructueuse. On me proposa et j'acceptai comme assistant une situation d'environ 2 livres par mois. C'était chez un médecin très connu de Birmingham, le docteur O'Hare, dont les courses en ville exigeaient un service de 5 chevaux. Et quiconque a pratiqué la médecine avant l'ère de l'automobile imagine ce que cela représente d'aller et venir entre le matin et le soir. O'Hare gagnait quelque 3 000 livres par an. Chiffre éloquent, si l'on songe à ce qu'il suppose de visite à 3 shillings 6 pence chez les plus pauvres gens d'Aston, et de remède à un shilling sixpence le flacon. Bien fait de sa personne, fort, carré, rougeaud, avec des yeux noirs et des favoris en broussailles, O'Hare avait une femme très bonne, très intelligente, et je tenais chez eux la place d'un fils plus que d'un aide. Mais le travail était dur, incessant, et la rémunération plus que médiocre. J'avais à exécuter chaque jour une carrière d'ordonnances, car nous fournissions nous-mêmes nos remèdes, et j'en préparais parfois jusqu'à 100 dans la journée. Je commettais peu de bévues, bien qu'il me soit arrivé d'expédier, soigneusement empaquetés et adressés, mais sans avoir rien mis à l'intérieur, des flacons de liniments ou des boîtes de pilules. J'avais, de surcroît, ma liste de visites chez les clients les plus humbles ou chez les convalescents, et j'ai vu, en bien comme en mal, force réalité de la vie dans les classes inférieures. Je revins deux fois pratiquer de la sorte à Birmingham, ce qui acheva de resserrer mes liens avec la famille. La seconde fois, mon savoir s'était grandement accru. Je faisais les accouchements, traitais les cas les plus graves de la médecine et m'occupais de toute la pharmacie. Il ne me restait, dans ces conditions, aucun temps pour la dépense, ce qui ne valait que mieux, le moindre shilling que je gagnais, étant utile à ma famille. C'est au cours de cette année-là que j'appris qu'on pouvait gagner des shillings autrement qu'en remplissant des fioles. Un de mes amis, frappé par le tour vif de mes lettres, m'avait fait entendre qu'il ne tenait qu'à moi de tirer parti de ma plume. Je ressentais fortement, je l'avoue, l'attrait de la littérature, et laissais mon esprit courir, sans but apparent, dans toutes sortes de directions. Près de la boutique où, pour la somme de 2 pence consacrée à mon déjeuner, j'achetais d'ordinaire un pâté de mouton, il y avait à l'étalage d'un bouquiniste un baril plein de vieux livres et surmonté de l'étiquette « Le volume 2 pence au choix ». Souvent, le prix de mon déjeuner passait dans l'acquisition d'un de ces volumes. J'ai encore à portée de la main, tandis que je trace ces lignes, le Tacite de Gordon, les œuvres de Temple et de Swift, l'Homère de Pope, le Spectateur d'Addison, tous venus du fameux baril. Quiconque eût observé mes goûts et mes actes eût certainement prédit qu'aux promesses d'un printemps si généreux répondrait une floraison abondante. Mais pour ma part, je n'aurais jamais rêvé de produire une prose décente, et le sentiment exprimé par mon ami me causa une extrême surprise. J'écrivis un petit récit d'aventure que j'intitulai « Le mystère de la vallée de Sassassa », et j'eus la joie inattendue de le voir accepté par le Chambers Journal, qui me le paya 3 guinées. Je fus moins heureux ensuite, mais n'importe, là où j'avais réussi une fois, je pouvais réussir encore, et cette pensée me soutenait. Des années s'écoulèrent avant que mon nom reparût dans le Chambers. En 1879, une nouvelle, le récit de l'Américain, que je publiais dans le London Society, me valut à son tour un petit chèque. Cependant, l'idée d'un succès positif restait toujours éloignée de moi. Les affaires de ma famille n'avaient pas pris, entre-temps, une tournure meilleure. Sans mes besognes subsidiaires et sans le travail de mes sœurs, nous aurions eu bien du mal à vivre. La santé de mon père s'était complètement altérée. Il dut se retirer dans la maison de repos où allaient se passer les dernières années de sa vie, et je me trouvais, de fait, à 20 ans, chef d'une famille nombreuse en lutte contre la gêne. L'existence de mon père fut un drame, le drame des possibilités inaccomplies, des dons irréalisés. Il avait ses faiblesses, comme nous avons tous les nôtres, mais il avait aussi quelques vertus éminentes. Grand, élégant, la barbe longue, il joignait au charme des manières une courtoisie que j'ai rarement vue égaler. Il était d'humeur vive et enjouée. En quelque société qu'il fût, si la conversation était grossière, une délicatesse d'esprit peu commune lui donnait le courage moral de se lever et de sortir. Quand il mourut, quelques années plus tard, je suis sûr qu'il n'avait pas un ennemi sur terre. Ceux qui l'ont le mieux connu ont certainement le plus compati à la rigueur d'une destinée qu'il avait jetée, lui, homme d'un génie sensible, dans un milieu auquel ne l'adaptait ni son époque ni sa nature. Il y avait chez lui un détachement, un manque de sens pratique, dont souffrit sa famille, mais ses défauts même étaient, en quelque sorte, la rançon de son développement spirituel. Il vécut et mourut en fils fervent de l'Église catholique romaine. Ma mère, qui, elle, n'avait jamais été une fille très dévouée de la grande institution, s'en écarta de plus en plus à mesure qu'elle avançait dans la vie et finit par trouver sa principale consolation au bercail de l'anglicanisme. Ceci m'amène à ce que j'appellerais, si l'on veut, mon déploiement spirituel durant ces années de lutte constante. J'ai déjà montré, à propos de mon éducation chez les jésuites, comment, dès l'enfance, tout ce qu'il y avait en moi de plus saint et de plus généreux s'élevait contre une théologie étroite et une conception peu charitable des autres grandes religions qui se partagent le monde. Dans l'Église catholique, douter de quelque chose équivaut à douter de tout. C'est un axiome fondamental que le doute est un péché mortel. Une fois qu'il a, malgré vous, pénétré en vous, il ne vous laissera plus de paix. Dès lors, tout se relâche. Le merveilleux système, où les moindres parties s'entrecommandent, vous apparaît sous un jour différent et plus critique. Ainsi considéré, le catholicisme avait encore pour moi bien des attraits. Ses traditions, son rituel immuable et solennel, la beauté et le bien fondé de la plupart de ses règles, la poésie de ses recours à l'émotion, le charme sensuel de sa musique, de ses lumières, de son encens, enfin son pouvoir comme instrument de la loi et de l'ordre. À beaucoup d'égards, comme guide d'un monde sans pensée, sans éducation, il ne pouvait guère être surpassé. On l'a bien vu au Paraguay et dans l'Irlande de jadis, où, sauf en période de troubles agrariens, le crime était rare. Tout cela, je m'en rendais compte. Mais s'il est un trait de ma vie dont j'ai le droit de me targuer, c'est que jamais je n'ai biaisé ni transigé sur les questions religieuses, que je les ai toujours pesées très sérieusement, et que, se fût-il agi de mes intérêts les plus proches, je n'aurais pu rien dire à leur sujet que ce qu'au fond de moi, je jugeais être la vérité. À la double lumière de mes études et de mes lectures, je trouvais que les fondements de toute la doctrine chrétienne, et non pas seulement catholique, telle que me les présentait la théologie du XIXe siècle, étaient d'une faiblesse telle que mon esprit ne pouvait bâtir sur eux. On se rappellera que c'était l'époque où nous avions pour maîtres de philosophie Huxley, Tyndall, Darwin, Herbert Spencer, John Stuart Mill. Le courant de leurs pensées se faisait sentir jusque sur l'homme de la rue, et sur la jeunesse des écoles, impressionnable et ardente, il était irrésistible. Je sais aujourd'hui que leur attitude négative était plus mal comprise encore, et beaucoup plus dangereuse, que les doctrines positives auxquelles s'attaquait une critique d'un effet si destructeur. Entre nos pères et nous, un abîme s'était ouvert. Le jour quand Gladstone prit la plume pour affirmer le miracle de Gadara, ou les 6 jours de la création, le plus jeune des étudiants accueillit son argumentation par de justes moqueries, et il ne fut pas besoin de Huxley pour la mettre par terre. Je comprends, à l'heure actuelle, combien il est déplorable que de telles absurdités puissent se perpétuer sans même qu'une note en bas de page atténue la rigueur du texte sacré, car ce qu'il y a de vraiment sacré en est offusqué, et l'on se persuade aisément que ce qui est faux en certaines parties manque de solidité et de cohésion. La religion n'a pas d'ennemis plus redoutables que ceux qui s'opposent brutalement à ce qu'on révise ou modifie l'étrange masse de questions, celle-ci excellente et magnifique, celle-là contestable, réunies pêle-mêle en un seul livre, comme si elles avaient toute la même valeur. Ce n'est point là de l'or pur, mais de l'ordre de l'argile, et le chercheur consciencieux, s'il le comprend, ne jettera pas l'or quand il rencontrera l'argile, mais lui accordera d'autant plus de prix qu'il l'en aura lui-même séparé. Ainsi le christianisme tout entier s'était aliéné mon esprit. Il m'avait conduit à un agnosticisme qui, d'ailleurs, ne devait jamais dégénérer en athéisme, car je percevais très vivement et l'équilibre admirable de l'univers et le terrible pouvoir de conception et de conservation qu'il implique. Mes doutes étaient respectueux. Plus je réfléchissais, et je réfléchissais sans cesse, plus je me fortifiais dans mon non-conformisme. J'étais, au sens large du mot, un unitaire, sauf que, dans ma façon d'envisager la Bible, j'apportais plus de jugement que ne font les unitaires en général. Cette position négative était chez moi si ferme que je la prenais pour un point d'arrivée. Quand elle marquait seulement une bifurcation sur la route de la vie, ou, d'une direction battue, je passerai plus tard dans une direction nouvelle. Tout matérialiste, je m'en aperçois maintenant, est un cas de développement arrêté. Il a fait place nette de ses ruines, il n'a pas commencé de se bâtir un abri. Quant au psychisme, j'en ai eu d'abord connaissance par les comptes rendus de procès auxquels il avait donné lieu et par les allégations aussi extravagantes que malveillantes dont il était d'ordinaire l'objet dans la presse. Il m'a fallu des années pour comprendre que dans cette voie, pouvaient se rencontrer les preuves positives dont j'ai complètement fait dépendre, en ce qui me concerne, tout acte de soumission à l'invisible. Je réclamais une démonstration précise, car si le psychisme devait être article de foi, autant valait que je revinsse à la foi de mes pères. Jamais, me disais-je, je n'accepterai rien qui ne puisse m'être prouvé, car les mots de la religion sont tous venus de ce qu'on acceptait des affirmations sans preuve, et j'ai persisté dans ma résolution. Je ne voudrais pas donner l'impression que si j'ai pu avoir quelques inquiétudes sortant du commun, quelques idées tourmentantes, ma vie en a été maladivement affectée. Ma vivacité naturelle ne me laissait manquer aucune occasion de m'égayer. J'étais fort enclin au plaisir. Je lisais beaucoup, je jouais tous les jeux possibles. J'allais au théâtre voir une pièce ou une autre, chaque fois que j'avais 6 pence pour m'offrir une place au poulailler. J'y fus un soir la cause involontaire d'une bagarre qui aurait pu devenir sérieuse. Je faisais la queue, avec une foule de gens, dans l'escalier du haut, en face de la porte qu'on n'avait pas encore ouverte. Il y avait là une douzaine de soldats, dont l'un pressait contre le mur une jeune fille tellement qu'elle se mit à crier. Me trouvant près de lui, je l'invitai à plus de douceur. Pour toute réponse, il m'enfonça violemment son coude dans les côtes. Comme, en même temps, il s'était retourné, je le frappai des deux mains au visage. Il bondit vers moi et me poussa dans l'angle de la porte. Mais je l'avais saisi, je le tenais, et ne pouvant jouer des bras, il essayait, lâchement, de me bourrer avec le genou. Plusieurs de ses camarades intervinrent, menaçant, et l'un d'eux me creva le chapeau d'un coup de canne sur la tête. Par bonheur, à ce moment, la porte s'ouvrit. La ruée de la foule emporta les militaires, cependant qu'un caporal me disait d'un ton de sympathie « Reprenez haleine, monsieur, reprenez haleine !» Je lançai mon adversaire à travers la porte et je rentrai chez moi, certain que si je restais, il me chercherait en cornoise. Ainsi liquidai-je à peu de frais un incident malencontreux. Voilà que j'arrive à ma première aventure mémorable. Elle mérite un traitement spécial et les honneurs d'un chapitre.